Ben, je salue ceux et celles que je n'ai pas eu le temps de saluer, ou que je n'ai pas pu saluer en arrivant, plus exactement. Je vous apporte les salutations de l'équipe des responsables de l'Assemblée de Belfort, dont je fais partie. Et ce matin, j'aimerais vous lire un texte que nous trouvons dans l'Évangile de Jean. Vous m'entendez bien là ?
Parfait.
Sinon, vous faites comme ça et j'essaie de monter un peu ma voix parce que habituellement, j'ai pas une voix trop forte. J'ai téléphoné en début de semaine à Christian pour savoir quels avaient été les thèmes des messages de ces derniers temps, pour ne pas vous dire quelque chose que vous aviez ou que vous aviez entendu ou que vous veniez d'entendre. Donc il y a 15 jours, j'ai eu le privilège de prêcher aussi à Baccara, et j'avais parlé sur ce même texte. Alors vous allez me dire, il ne s'est pas fatigué, mais quelque part, je trouve que c'est bien que dans nos différentes assemblées, on puisse aussi avoir les mêmes thèmes et entendre les mêmes choses. Et quelque part, la parole de Dieu, que pour la plupart nous connaissons bien, elle a toujours des choses nouvelles à nous révéler et il y a toujours un éclairage différent selon les situations, les moments que nous vivons, les expériences que nous vivons. Puis comme nous sommes dans cette période entre Pâques et la Pentecôte, on approche très vite de la Pentecôte, c'est dimanche prochain, je voulais lire aussi donc, et méditer ce texte de Jean 21. Dans l'Évangile de Jean, au 21e chapitre, nous allons déjà lire la première partie jusqu'au verset 14 et nous poursuivrons après. Il n'y a pas de montre, donc combien de temps, cher ami?
Quand je coupe le micro, c'est que c'est fini.
D'accord. C'est redoutable. Alors Jean 21, après cela... Alors après cela, c'est que le jour de la résurrection, Jésus s'est montré plusieurs fois. Il s'est montré aux femmes qui ont été rapportées aux disciples, qui n'ont pas forcément cru. Hein. Ils se sont barricadés dans la chambre haute, ils ont tout fermé à triple tour, si ça existait à l'époque. Et puis quand Jésus s'est présenté au milieu d'eux, ils ont eu peur, ils ont cru que c'était un fantôme. Thomas n'était pas là, et quand les disciples ont dit la chose à Thomas, il a dit « Ouais, vous me le dites, mais tant que je n'aurai pas vu, je ne croirai pas. » 8 jours après, Jésus se présente de nouveau au milieu de ses disciples, et Thomas, présent, il a l'occasion de voir Jésus, ses mains percées, ses pieds percés, et Jésus a mangé devant lui aussi du miel, et Thomas a cru. Jésus lui a répondu « Heureux ceux qui croient et qui n'ont pas vu. » Alors j'espère que dans nos vies, nous avons vu des choses, nous avons expérimenté des choses qui nous permettent de croire. Donc, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui répondirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent, montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées, à peine 100 mètres. Une coudée, normalement, ça faisait 47 cm à l'époque. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait eu tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Jusqu'ici, cette première partie de lecture, c'est quelque part, on ne le sent encore pas très bien au début du passage, pour Pierre que Jésus était venu et qu'il l'attendait là, sur le rivage, nous allons le voir plus loin. Jésus l'avait déjà appelé à son service, à être son disciple, 3 ans à peu près plus tôt. Mais là, il va le rappeler à sa vocation, à son service. Appeler et rappeler. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous aussi, on a besoin parfois d'être rappelé. Quand on est à l'école, on est rappelé à l'ordre. Moi, j'étais un peu comme ça. Souvent, on m'a rappelé à l'ordre parce que j'étais au fond de la classe. Aujourd'hui, il n'y a personne, c'est bien. Parce qu'on pense à autre chose. On oublie les choses. On est distrait par les choses de la vie. Et on a besoin d'être rappelé à l'essentiel. Bien sûr, il y a les autres disciples qui sont présents avec Pierre et acteurs aussi de cette journée qui a commencé par le désœuvrement. Que faire? L'ennui à l'âme. Les jeunes aujourd'hui disent le blues. Ils avaient certainement le blues, hein, ce qu'ils avaient vécu pendant 3 ans avec le Seigneur, la crucifixion. Ils l'avaient revu, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Faut bien s'occuper, la vie reprend ses droits. Les disciples semblent désemparés. Attendre quoi? Attendre qui? Il fallait s'occuper, vivre, se nourrir, travailler. À l'époque, le RSA et le RMI s'obtenaient en mettant du cœur à l'ouvrage. Pierre le savait bien, lui le pêcheur professionnel. Que faire d'autre d'ailleurs que ce qu'il avait toujours fait, ce qu'il avait appris à faire et ce qu'il avait fait pendant son jeune âge? Je vais pêcher. Pierre était un leader né, un homme de décision. Celui qui était toujours le premier à avoir des réactions, bonnes et parfois mauvaises. On connaît sa vie. C'était un meneur, pour le meilleur comme pour le pire. Ça nous rappelle cette lutte permanente qui est en nous. Nous sommes aussi capables du meilleur, et parfois c'est moins glorieux. En tout cas, je parle pour moi, parce que je vous connais un petit peu, vous êtes certainement différents, mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas un seul. Alors je crois qu'après, on ne va pas moduler les choses, mais nous sommes faits de la même pâte. Pierre, c'était quand même lui qui, à la fin du ministère de Jésus, portait une épée sous le manteau. On se demande ce qu'il avait, pour quelle idée il avait eu d'avoir cette épée sous le manteau. D'ailleurs, il dégaine une oreille. Il se croyait dans une arène, peut-être. Mais ce n'était pas ça que Jésus lui avait appris pendant ces 3 années. Mais il voulait protéger son maître. Ça partait peut-être d'une bonne impulsion, en tout cas il le croyait. Je parle un peu comme ça pour emmêler les choses. Parfois, on fait des choses qu'il n'aurait pas fallu faire, mais ça part peut-être d'une bonne impulsion, quelque chose de naturel qui est en nous. Ça, c'était dans le jardin de Gethsémani. C'est lui aussi qui avait répondu à Jésus lorsqu'il lui a demandé « Qui dit-on que je suis ?» Tout de suite. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, bonne réponse, hein? 20 sur 20. Et tout de suite derrière, Jésus leur dit, Il faut que le Fils de l'homme meure et qu'il ressuscite le troisième jour. Et Pierre, toujours le premier, il répond quoi ? À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et dans le même instant, Jésus est obligé de lui dire « Arrière de moi, Satan ». Incroyable ! Tu es le Fils du Dieu vivant, c'est l'Esprit qui t'a révélé ces choses, ce n'est pas la chair et le sang. Et tout de suite derrière, « Arrière de moi, Satan ». Je prends quelques exemples de Pierre à la transfiguration, vous vous souvenez ? Il est tellement bien. Moïse et Jésus, ils voulaient rester sur la montagne. On va dresser trois tentes. Hein ? C'était un homme entreprenant. Hein ? Il faut l'emmener à proclame celui-là, il a toujours les solutions. Il sait quoi faire, pas pris au dépourvu. Et non. C'est lui aussi, voyant Jésus venir vers la barque et marcher sur l'eau, « Seigneur, permets, moi aussi je veux marcher sur l'eau. » Et il y a été. Hein. Alors bien sûr, on peut le critiquer parce qu'après il a eu peur et puis il a commencé à s'enfoncer. Mais moi je ne pense pas que j'aurais demandé, j'aurais eu cette toupet de demander de sortir de la barque et de marcher sur l'eau. Premièrement, je ne chausse pas grand, hein, 40-41, donc ça tient moins bien. Lui, il avait peut-être des plus grands pieds. Mais en tout cas, oui, quelque part, il y croyait, quoi. Je veux y aller. Même si tout de suite derrière, voyant les vagues, il a eu peur. Pierre était un homme rempli de fougue, d'ardeur, d'enthousiasme, de passion. Mais il avait besoin d'être raisonné, discipliné, conseillé, guidé. Il avait besoin d'une énergie plus canalisée, dans la bonne direction. Et chaque expérience avec le Seigneur, chaque épisode vécu, chaque défaite d'ailleurs, allait le forger pour qu'il devienne l'apôtre Pierre, serviteur fidèle, entièrement dévoué à son ministère. Je ferai remarquer que Jésus n'a jamais cassé son élan, son impulsion, sa vivacité. On ne lui a pas reproché ça. Mais il fallait que ce soit canalisé dans la bonne direction. Et nous aussi, nous avons reçu des dons. Nous sommes capables de faire des choses. Mais il ne faut pas que ça nous conduise à faire n'importe quoi. Il faut que là aussi, nous soyons orientés, guidés par le Seigneur et par l'Esprit Saint pour ne pas nous tromper de combat. Et lorsque Pierre, ce soir-là, décide d'aller pêcher, Thomas, donc celui qui a vu le Seigneur ressuscité et qui a cru, Nathanaël, que le Seigneur avait vu sous le figuier, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, alors eux aussi, hein, vous vous souvenez de leur histoire, hein, ils ont dû parler à leur mère, « Seigneur, quand il sera dans son règne, demande voir, nous on n'ose pas, si on peut être assis, moi je voudrais bien être à sa droite et puis toi à sa gauche. Hein. » Et la maman Zébédée, il y a été, hein, elle a demandé ça au Seigneur. Alors les mamans, même si vous aimez fortement vos rejetons, soyez prudents. Je n'en dirai pas plus. Parce qu'on a, nous avons 4 enfants et 8 petits-enfants, alors parfois on a des grandes ambitions pour nos enfants, surtout quand ils ont des capacités. Hein. Mais voilà, il faut que les choses se fassent. Et ce n'est pas ce que nous avons décidé, ou c'est ce que nous voulons qui est forcément bon pour eux. Alors, tous ses disciples suivent Pierre et ils montent dans une barque, ils vont au large et ils vont pêcher. Toute une nuit. C'était pas les 35 heures hein, à l'époque. Toute une nuit. Il paraît que maintenant, il y en a qui commencent à demander les 32. Je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais... Je ne voudrais pas me faire d'ennemis parmi vous, hein. Moi, j'ai commencé à 45, plus 5 obligatoires, 50, et puis en faisant encore des heures supplémentaires. Bon, alors ça me gêne un peu quand même. Oui, toute une nuit, cinq gaillards, sûrement costauds, qui savaient pêcher, et le matin, ils sont bredouillés. Je ne sais pas si vous êtes pêcheurs. Moi, Comme j'ai une rivière qui descend du vallon d'Alsace à 100 mètres de chez moi, j'emmène mes petits-enfants, on est quitte de prendre la voiture, on traverse la rue, hop, on pêche. Puis des fois j'y vais tout seul aussi, une bonne heure le matin. Puis les promeneurs avec leurs chiens, chaque fois ils s'arrêtent. Alors, monsieur Fernand, qu'est-ce que vous avez pris? Ben, je dis, pour l'instant, je prends l'air. Parce que, comme ça, je ne suis jamais bredouille, moi. Si je ne prends pas de poisson, au moins, je prends l'air. Ben, eux, ils ont fait comme ça. Ils ont aussi pris l'air. Mais c'est frustrant, quand même, hein, quand on revient d'une partie de pêche, et puis qu'il n'y a rien. On n'a rien pris. Mais ça arrive. Ça fait partie. Et voilà qu'un inconnu les interpelle depuis le rivage. « Où est les enfants? N'avez-vous rien à manger ?» Ils sont obligés de répondre non. Ça aussi, c'est frustrant. Parfois, nous sommes interpellés dans la vie courante, à la sortie des magasins, parfois, ou déjà à l'entrée, par quelqu'un qui, quelque part, nous demande quelque chose. Alors souvent, je passais. J'étais plus jeune. Maintenant, souvent, je m'arrête. À l'entrée, c'est mieux. Hein, parce que comme ça, je peux demander ce qui lui ferait plaisir. Et je peux acheter quelque chose qui correspond à son désir. Si c'est quelque chose qui me paraît, oui, nécessaire et normal. Si c'est de la bière ou du vin, non. Et voilà. On peut acheter des fruits, on peut acheter des biscuits, on peut acheter du chocolat. Voilà, ça fait du bien. N'avez-vous rien à manger? Quelle frustration, avoir pêché toute une nuit et rien. Mais en réalité, Jésus ne leur demandait pas de quoi se nourrir, lui. Il leur faisait simplement remarquer que seul, sans lui, ils ne pouvaient rien faire. C'est comme pour nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire qui soit utile. Ils pouvaient se fatiguer inutilement. Nos plans, nos actions, sans lui, sans son esprit, qui ne rentre pas dans ses projets, nous donnent une fatigue inutile. Il faut que nous soumettions nos actions, nos projets à Dieu. N'avez-vous rien à manger? Et cette question renferme parfois des choses beaucoup plus profondes qu'une nourriture matérielle. Souvent, cette question exprime un besoin bien plus profond que le casse-croûte, un besoin d'amour, de rencontre, de partage, peut-être un besoin spirituel même. Si nous répondons par la négative ou l'abstention, qui est très à la mode, nous nous privons nous-mêmes de joie et de bénédiction véritable. Vous connaissez, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne te détourne pas du pauvre. Nous ne pouvons pas dire comme les disciples, nous n'avons rien, parce que nous sommes dotés. Le Seigneur nous donne, même largement, même si nous croyons ou nous pensons que nous sommes désavantagés par rapport à un frère et une sœur, nous avons tous reçu quelque chose que nous pouvons partager. Jésus a déjà jeté le filet pour nous, et il est plein à se rompre, si nous y croyons. Nous pouvons apporter notre part, notre participation au repas et au partage, afin de nous enrichir nous-mêmes. Vous vous souvenez qu'avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri 5 000 hommes. Pareil qu'on n'a pas compté les femmes et les enfants, alors ça devait faire beaucoup plus que 10 000. Hein? La multiplication dans le partage, j'y crois. J'ai une petite expression qui est de moi, c'est pour ça que je m'en vante toujours. Quand on dit « il faut partager », je dis que quand on partage la communion fraternelle, le bonheur, eh bien, il y en a plus pour chacun. Ce n'est pas comme quand on partage le gâteau. Quand on partage le gâteau, la part est toujours plus petite. Plus nombreux on est, plus il y en a, moins il y en a. Par contre, quand on partage la fraternité, l'amour, La joie de la rencontre, eh bien, il y en a beaucoup plus pour chacun. C'est aussi la multiplication. Et les 7 disciples présents dans la barque vont le vérifier. Jeter le filet du côté droit de la barque. Ça rappelle une autre pêche miraculeuse que nous trouvons dans Luc 5, je ne vais pas la lire, mais vous la connaissez. Ils auraient pu dire à Jésus, à l'inconnu sur le rivage, pardon, « Qui es-tu, toi, pour nous donner des conseils ? T'as déjà pêché ?» Parfois, j'ai envie de répondre comme ça aussi. « Pourquoi t'es pêcheur ?» Mais non, ils obéissent. Et le miracle se produit. 153 grands poissons. Bon, je n'ai jamais pêché tant. 153 grands poissons qu'ils ramènent au rivage. Inversement, dans Luc 5, au verset 11, il est dit que quand ils ont vu que c'était Jésus, eh bien, ils ont laissé leur filet, ils ont tout laissé et ils l'ont suivi. La peine. L'obéissance au Seigneur va déboucher sur l'abondance miraculeuse. Lorsque nous jetons le filet sur l'ordre de Jésus et selon ses prescriptions, il se remplit abondamment. Pierre, reconnaissant là l'œuvre du Seigneur, change de priorité. Malgré l'extraordinaire de la pêche, l'important était ailleurs. Là, sur le rivage, le maître l'attend. Il va s'habiller pour se jeter à l'eau. Nous, on fait l'inverse. Hein. On se met en petite tenue pour nous jeter dans l'eau. Mais j'ai pensé peut-être que c'était une image. Il se mouille, il prend position, il se revêt et nous sommes appelés à nous revêtir de ce que le Seigneur nous donne, de toutes les âmes aussi, de l'esprit. Sait-il déjà que Jésus est venu là, pour lui, Pierre en particulier? Ou bien sûr, il y a d'abord le réconfort des bonnes grillades de poissons accompagnées du pain fourni par le Seigneur lui-même. C'est formidable, hein? Ils arrivent sur le rivage, il y a un feu, il y a du poisson qui rôtit et le pain est prêt. Et ça devait être meilleur que le poisson de la belle marée ou le pain de chez Banette. Tout devait être succulent. Et ce qui est formidable, c'est que Jésus va se plaire à utiliser le produit de leur pêche. Il leur dit « Apportez les poissons que vous avez pris ». Moi, j'aurais dit « Les poissons que je vous ai fait prendre ». Mais non, les poissons que vous avez pris. Il leur attribue le produit de leur pêche. Ça me parle aussi. Sans lui, ils n'auraient rien pris. Et pourtant, cette prise-là leur est attribuée. Jésus respecte notre travail, comme il a respecté le leur. Le produit de leur effort, comme le produit de nos efforts. Cela me parle. Merci Seigneur, parce que je peux t'apporter l'offrande que tu appelles mienne, alors qu'en réalité, elle vient de toi. On est d'accord. Si on peut apporter une offrande au Seigneur, c'est qu'on l'a reçue de lui. Tout don, tout bienfait, toute grâce viennent de lui. C'est peut-être le produit de notre travail. Mais c'est un produit du travail. C'est qu'on a la santé pour pouvoir travailler. C'est qu'on a trouvé un emploi. C'est que on peut remonter la chaîne. Oui. L'offrande que tu appelles mienne. Il nous veut participants avec lui dans son œuvre. Il peut faire sans nous. La preuve, il a fait le feu, il y a le poisson, les poissons rôtis, et il y a le pain. Mais aime nous récompenser en nous permettant d'apporter notre pierre à l'édifice matériel ou spirituel que nous projetons et que nous bâtissons. C'est même lui, le Seigneur, qui, après avoir fait la cuisine, fait le service de table. Il donne, distribue, rassasie. Il est le serviteur modèle. Le roi, serviteur, vous vous souvenez, celui qui a même lavé les pieds à ses disciples. Après avoir calmé les besoins des estomacs, il va pouvoir s'occuper de Pierre en particulier. Pour ses besoins essentiels, vitaux, bien plus importants, ça me rappelle la devise de l'armée du salut, dans l'ordre soupe, savon, salut. Ça commence jamais à l'envers. Jésus nous a montré cet exemple-là. D'abord les besoins de nos corps, les malades, ceux qui avaient besoin, et ensuite la Samaritaine, l'eau, oui, mais l'eau vivante, l'eau qui produit la vie. Et je lis la suite à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ?» Il ne lui a pas demandé, « M'aimes-tu ?» au début, « Plus que ne m'aiment ceux-ci. » Il lui répondit, qu'est-ce qu'il lui aurait répondu il y a quelques jours, peut-être? Seigneur, allons, c'est très bien que... Ah, maintenant, mince, il y avait eu l'arrestation. La servante qui lui avait posé cette question. Mais toi aussi, tu étais avec eux. Non, non, moi je ne connais pas. Ça a dû tourner dans sa tête. Il y a dû y avoir des flashs. Et la réponse de Pierre, cette fois-ci, c'est « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Pas plus. Jésus lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle sorte, par quelle mort, Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » J'arrête là cette deuxième partie de la lecture de ce chapitre. Cette question posée trois fois à Pierre, « M'aimes-tu ?» Il y a une gradation, c'est toujours plus fort, et Pierre ne peut pas y échapper, comme nous ne pouvons pas échapper à cette question. Il lui rappelle son identité. « Simon, fils de Jonas. » Ouais, c'est bien à toi que je parle. C'est pas à quelqu'un d'autre. Hein. Même si plus loin, on voit qu'il a... Et lui, Jean, lui arrivera-t-il? Mais là, il a eu du mal à se concentrer, mais quand même. « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » En vérité, Jésus révèle aussi à Pierre par quel mort il glorifierait le Seigneur. La tradition dit que Pierre est mort, crucifié, mais la tête en bas. Quelle horreur, n'est-ce pas ? Quelle horreur. Déjà la crucifixion, horrible, et la tête en bas. Et par cette mort, il allait glorifier le Seigneur. Et ce qui est fort dans cet entretien, ce sont ces deux petits mots. « Suis-moi. » Ah, il avait déjà entendu. Il avait déjà entendu quand Jésus l'a appelé une première fois au début de son ministère. Suis-moi. Et je pense que là, ce « suis-moi », il a un retentissement beaucoup plus fort. Parce que derrière, il y a toute une vie, il y a tout un exemple de vie. Il y a ce qu'il a vécu avec Jésus et avec les autres. Et il comprend que ce « suis-moi-là » va lui demander des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Et en même temps, il reçoit un ministère. Paie mes brebis. C'est étonnant. Pierre, le pêcheur, celui qui, pour qui la mer et les poissons avaient... connaissait tout. Et voilà qu'il va changer de métier. Il reçoit une autre vocation. Il va s'occuper d'un troupeau. Il va devenir berger. Il aura une vocation pastorale. C'est formidable. Je te ferai pêcheur d'hommes, lui avait déjà dit Jésus, à la première pêche miraculeuse. Pêcheur d'hommes. Et là, eh bien, il reçoit une vocation pastorale. Il sera berger. Et ce thème du berger traverse l'Écriture. Il n'y a qu'à penser au psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous le connaissons par cœur, je pense. Jésus lui-même qui, en Jean 10, dit « Je suis le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. » Et cet impact de ce mot « berger » a dû retentir dans Pierre, qui s'est rendu compte de la signification. Il va paître le troupeau du Seigneur, pas le sien, le troupeau du Seigneur. Une découverte d'une nouvelle réalité. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Oui. Et alors, suis-moi. Je vais te donner une vocation. Pierre, celui qui avait renié le Seigneur, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était capable du meilleur et du pire. Pourquoi Pierre ? Pourquoi Dieu choisit-il quelqu'un comme Pierre ? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens, qui respirait la haine, est-il écrit, pour en faire un apôtre conduit par son amour ? Un changement brutal, radical, mais aussi définitif dans la vie de ces deux apôtres. Qu'en est-il de nous, chers amis ? Est-ce que la rencontre avec le Seigneur a produit chez nous un changement de vie radical ? Nos intérêts, nos sources d'intérêt aujourd'hui sont-elles guidées par le Seigneur ? A-t-il, celui que nous appelons le Seigneur, a-t-il la première place dans nos vies ? Ou est-il le Sauveur ? C'est sûr, hein, c'est celui qui est mort pour nous, qui nous a promis la vie éternelle, qui nous prépare une place pour qu'on soit auprès de lui. On est sauvé par grâce, on n'a rien à mériter. Hein. On n'a rien mérité, on n'a plus rien à mériter. Seulement, il veut aussi être celui qui guide nos pas, le Seigneur de nos vies, celui qui a autorité. Quelqu'un disait, celui qui tient le volant de notre auto. Bon, des fois, on a l'impression maintenant que c'est le GPS qui tient le volant. Suivant comme vous l'avez réglé, il peut vous emmener sur des chemins de traverse. Mais si c'est le Seigneur qui tient le volant, on arrivera au but malgré les difficultés de la route. Il ne nous a jamais promis une vie de facilité. Si quelqu'un parmi vous a le... comment on dit ? Le truc, hein, l'astuce pour ne jamais avoir de problème, vous venez me voir tout à l'heure, on en parle, moi je prends un autre, j'ai un stylo. Non ? Le disciple n'est pas plus que le maître, a-t-il dit. Donc attendons-nous à affronter des difficultés. Et plus nous voudrons suivre notre maître et seigneur, moins cela plaira à l'ennemi de nos âmes. Et plus il va nous chatouiller, c'est un faible mot. Ouais. Il va essayer de nous faire passer sur le grill. Moi, j'aimerais pas finir en tant que grillade. Donc, abandonnons-nous dans les mains du Seigneur, celui qui a tout accompli pour que nous puissions avoir part à ce salut éternel, mais aussi celui qui, pour nous, chacun d'entre nous, a un projet de vie, pas un projet de mort, hein, un projet de vie, afin que nous puissions le glorifier au travers de la manière dont nous vivons. C'est pas évident, hein. Souvent on a facile à parler, mais les gens qui nous voient vivre, nos plus proches, nos voisins, nos amis, eux savent comment on réagit. Ils savent que c'est pas toujours glorieux. Je vous raconte encore une histoire de pêche, décidément, hein. J'ai un ami, enfin que j'avais perdu de vue, 40 ans peut-être, à peu près, qui était un bon footballeur professionnel, qui est à la retraite. Et puis à un moment, il est revenu pêcher vers moi. Ah, Fernand, nanana, on commence à se raconter des histoires dans le temps, comme disent les anciens. Et puis, au fur et à mesure que les rencontres se multipliaient au bord de l'eau, toujours, il disait, mais t'es pas comme les autres. Hein. T'as le bon Dieu avec toi. Ah, je dis ça. C'est une manière de dire, mais oui, je suis d'accord. Dieu est avec moi, etc. Puis on a commencé à tourner, puis on a commencé à parler. Et maintenant, chaque fois qu'on se voit, ça ne dure pas 5 minutes. Hein. Au fait, Fernand, il est là. Je vais venir une fois à l'office, quand ma femme voudra venir avec, mais j'écoute, Milo, il s'appelle Milo. Milo, c'est pas obligé, si ton épouse ne veut pas venir, et ben, écoute, tu viens déjà une fois, et puis voilà. Alors bon, je suis en train de réfléchir, parce que je ne veux pas l'inviter non plus à n'importe quelle occasion. Alors vous allez dire que je doute de la puissance de Dieu, c'est possible. Mais voilà, donc je prie pour qu'un jour il puisse venir, parce qu'on fait aussi des cul-de-porte toutes ouvertes et des choses comme ça, à une occasion où il y aura des personnes comme lui. Mais s'il revient à la charge, c'est pas parce que des bonnes blagues à lui raconter, mais c'est parce que quelque part à l'intérieur il est travaillé, hein, comme tous les hommes. Parce que vous vous souvenez que l'Éternel a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Hein. Même ceux qui disent ne pas y croire, encore, Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Et ça me permet d'engager des conversations et d'aller faire du cheminement avec même ceux qui disent ça ne m'intéresse pas. Parce qu'au bout d'un moment, on voit quand même que ça les intéresse. Soyons des témoins. C'est quoi un témoin? Ça veut dire quoi un témoin? C'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui peut relater l'événement, mais c'est aussi quelqu'un qui est appelé à souffrir et même à être persécuté. Le témoin. Soyons des témoins de ce que Dieu a fait déjà dans nos vies et de ce qu'il va encore faire, parce que nous sommes en route, frères et sœurs. Quelqu'un parmi vous est-il déjà arrivé? Vous rappelez l'apôtre Paul, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours afin de l'obtenir. Alors le prix, ce n'est pas la vie éternelle, parce qu'on l'a obtenue celle-là, on l'a. Et le prix, la récompense, parce qu'on aura été un bon serviteur, à qui un jour le Seigneur va dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et moi, c'est un verset auquel je pense souvent, et j'aspire un jour à rentrer dans la joie du maître. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est dans 20 ans, j'espère pas, parce que je vais coûter cher à la sécurité sociale, enfin à la caisse de retraite, mais voilà. Tout à l'heure, on a lu dans l'Apocalypse, « Viens bientôt, Seigneur, viens bientôt. » Et l'Église dit, Oui, Seigneur, viens bientôt. Est-ce que dans nos vies personnelles, quand on est en communion comme ça et en communauté, c'est facile de dire viens bientôt, Seigneur. Mais quand on est tout seul, chez nous, dans des circonstances pas forcément faciles, on le dit. Mais quand on est dans la joie et que tout va bien, viens, Seigneur. Je voudrais bien quand même que mes enfants, mes petits-enfants, connaissent la vie et puis tout. C'est encore pas le moment, hein? Ça, c'est naturel. C'est comme Pierre, il aurait pu dire ça. Moi, je ne vais pas le dire. Viens bientôt. Nous soupirons, et c'est vrai, après cette attente. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, j'aurais voulu qu'on chante un chant. Ça va être dur, hein? Va vers ceux qui meurent. Vous connaissez? Non? Jésus te confie une œuvre d'amour. Attendez, j'ai amené mon foyer. N'ayez pas peur, je ne chante pas. Hein. Sinon, vous allez vraiment dire Seigneur, viens vers nous. Vous avez ce livre-là? C'est le 365. Jésus te confie une œuvre d'amour. Qui peut... Oui, Rachel.
Non, bah, Christian a trop dit.
Oui, mais toi, tu veux nous entraîner? On n'est pas obligé de chanter toutes les...
Juste la première ou...
Non, j'aime bien celle-là aussi.
La dernière.
La première et la dernière.
La première et la dernière. Juste vérifier si c'est là-dedans. C'est là-dedans ou pas?
Ah oui, on va taper les paroles. J'aurais dû le dire au début. Non, papa.
Non.
Fais-nous un solo, Rachel.
Bah, peut-être. Annie, toi, tu connais?
Accompagnement, mais je vais peut-être lire les paroles parce que c'est difficile. Vous avez compris les paroles, non?
Oui. Oh. Mais on le chantait, il y a 40 ans.
C'était avant-hier.
Oui.
Alors, Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour, sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. C'est magnifique comme parole, n'est-ce pas? Je vous lis encore la dernière. Va vers ceux qui meurent. Et autour de nous, il y en a. Ça ne manque pas. Sans Dieu, sans espoir, dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Et encore, prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour, sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est vivante, les vérités sont vie. Elle veut nous interpeller chaque jour. Merci parce que, au travers d'elle, tu nous parles actuellement, tu nous parles aujourd'hui, à chacun d'une manière peut-être différente. Mais ce que tu veux, c'est que nous soyons à ton écoute et que nous te suivions, oui, jour après jour. Nous savons que les circonstances de la vie ne sont pas toujours favorables, mais ce qui est certain, c'est que toi, tu ne nous lâches pas la main. Tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et cela réconforte nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, d'être trouvés fidèles, veillant, priant pour le jour où tu viens. Nous te demandons, Seigneur, de prendre soin de chacun de ceux qui passent par la maladie, la difficulté, l'épreuve, le doute peut-être. Et nous savons que par ton esprit tu interviens et tu es capable de relever, de renouveler, de bénir et de donner sens de nouveau à la vie. Te demandons de nous accompagner aussi durant la suite de cette journée, mais aussi dans cette semaine nouvelle qui s'ouvre devant nous, afin qu'à chaque instant, nous puissions être trouvés sel de la terre et lumière du monde. Un sel qui n'a pas perdu son goût et une lumière qui brille. À titre individuel, mais aussi en tant que communauté, afin que ceux qui nous voient vivre puissent dire, voyez, de quel amour ils s'aiment. Merci Seigneur, parce que tu as des bons projets pour nous, nos familles, nos vies, nos églises, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir fait d'éternité. Que ton nom soit loué. Amen.